Desiderio, desideravi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Desiderio, desideravi, hoc pascha manducare vobiscum antequam patiar. J'ai désiré, d'un grand désir, manger cette Pâque avec vous avant que je ne souffre. Chers fidèles, desiderio, desideravi. J'ai désiré d'un grand désir. Notre Seigneur n'a pas eu en effet de plus grand désir que de se donner à nous en nourriture. Ce désir enflammait son cœur, et ce désir est d'ailleurs de toute éternité au sein même de l'adorable Trinité. Il s'est d'ailleurs manifesté tout au long des siècles depuis que Dieu a créé ce monde. À regarder l'histoire de l'humanité, nous trouvons, dès le jardin du paradis, une figure de la Sainte Eucharistie dans l'arbre de vie. Les fruits de cet arbre permettaient à Adam de garder le don d'immortalité. Il s'agissait là de l'immortalité du corps. L'Eucharistie fait bien mieux, puisqu'elle nous assure, si nous communions bien et fréquemment, l'immortalité de l'âme. Notre Seigneur nous en donne l'assurance la plus claire. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, possède au présent. De plus, dès la chute d'Adam, nous avons déjà en résumé l'admirable plan divin qui conduit à l'Eucharistie. Il est la totale contraposée de la chute terrible qui vient d'avoir lieu. Quatre choses viennent en effet de concourir à cette ruine du monde. Un homme désobéissant, une femme orgueilleuse, un arbre interdit et le fruit de cet arbre. De la même façon, Dieu a destiné quatre choses à notre relèvement. À l'homme désobéissant, il a opposé un homme obéissant jusqu'à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ. À la femme orgueilleuse, une femme admirablement humble, Notre-Dame. À l'arbre prohibé du paradis, l'arbre béni de la croix du Sauveur, et au fruit meurtrier, le sacrement de l'Eucharistie, le vrai pain de vie. Mais avançons un peu encore dans l'histoire. Nous y trouvons d'autres figures de ce sacrement. Tout d'abord, le sacrifice d'Abraham et de Melchisédek. Melchisédek est assurément un personnage mystérieux. Son nom signifie « roi de justice ». Il est de plus roi de la ville de Salem, nom qui veut dire « paix ». Il est donc à la fois roi de justice et roi de paix. L'Écriture de plus ne lui donne ni père ni mère, ni d'ailleurs aucun ancêtre, et pas plus de descendance non plus. Ce qui fait de lui une bien belle figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Vrai roi de paix et de justice, prêtre éternel. D'autre part, le sacrifice que Melchisédek offrit en action de grâce pour la victoire remportée par Abraham sur les ennemis du peuple de Dieu était composé de pain et de vin. Ce personnage annonce déjà notre Seigneur Jésus-Christ, qui offrit à la scène et qui offre à chaque messe le sacrifice de son corps et de son sang sous les espèces du pain et du vin. Desiderio, desideravi. De nombreuses autres figures annoncent l'Eucharistie et elles jalonnent toute l'histoire sainte, aussi bien en tant que l'Eucharistie est un mémorial de la passion du Seigneur qu'en tant qu'elle annonce le sacrement lui-même, l'aliment de notre vie spirituelle. Ainsi, en tant que mémorial de la passion, tous les sacrifices sanglants de l'Ancien Testament qui étaient accomplis sur les autels du Temple en furent des figures, aussi bien les hosties pour le péché que les hosties pacifiques ou encore les holocaustes, au cours desquels les victimes devaient être entièrement détruites afin de manifester les droits absolus de Dieu sur toute créature. En tant qu'elle est l'aliment de notre vie surnaturelle, une des principales figures fut la manne. nourriture absolument miraculeuse, pleine de saveurs, qui tombait du ciel, et fut la seule nourriture qu'eurent les Hébreux lors de leur traversée du désert vers la terre promise. Ajoutons également les 12 pains de proposition qui étaient offerts chaque jour de sabbat à Dieu. Les pains qui étaient retirés ne pouvaient être mangés que par des prêtres. Ils annoncent eux aussi le sacrement de l'Eucharistie sous les espèces du pain de froment. Mais il nous reste à étudier une dernière figure, sans doute la plus expressive de toutes, car elle réunit en elle les deux aspects de ce sacrement, et le sacrifice et l'aliment. Il s'agit de l'agneau pascal. Cet agneau sans tache qui était immolé, afin que grâce au signe tracé avec son sang, les enfants des Hébreux fussent sauvés de l'extermination, Dieu avait prescrit qu'il devait être consommé entièrement par chaque famille avec des pains azim. Dans la figure, l'agneau et les pains sont séparés. Mais le vrai agneau de Dieu, lui, est présent sous les espèces du pain. Oui, nous avons là une vraiment belle image de la Sainte Eucharistie, seule nourriture spirituelle qui nous permet de gagner le ciel, selon les paroles mêmes de notre Seigneur. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle. » Desiderio desideravi, j'ai désiré d'un grand désir. Nous venons de voir les nombreuses marques déposées par Dieu au cours de l'histoire des hommes pour les préparer au don sublime du sacrement de l'Eucharistie. En s'incarnant, Dieu ne pouvait qu'accentuer cette préparation des esprits. De fait, notre Seigneur, pendant sa vie terrestre, a progressivement conduit les apôtres et ses disciples à la connaissance d'un tel mystère. Il y a ainsi eu les deux multiplications des pains. Tout d'abord celle des pains d'orge, puis celle des pains de froment. Progression. Mais surtout, nous trouvons au chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean un discours très célèbre de notre Seigneur sur le pain de vie. Il y annonce très clairement qu'il donnera son corps en nourriture. Il prend soin d'ailleurs de bien préciser qu'il ne parle pas un langage figuré. Il ne s'agit pas non plus d'une simple déclaration, une phrase ou deux, mais bien au contraire, d'un long discours au cours duquel notre Seigneur affirme et réaffirme la réalité du sacrement de l'Eucharistie. Il ne laisse aucune équivoque possible. Nous en donnerons juste quelques extraits. Notre Seigneur parle. En vérité, Moïse ne vous a pas offert dans la manne le vrai pain du ciel. C'est mon Père qui vous procurera le pain véritablement céleste. C'est moi qui suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais voici le pain tombé du ciel, afin que quiconque en mangera échappe à la mort. Et notre Seigneur continue et réinsiste. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ces paroles ont été si bien comprises que s'est élevé parmi les Juifs non pas des murmures, mais de vives discussions, voire même des altercations, litigabantes. Ils se querellaient et se disaient entre eux « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Notre Seigneur, ainsi mis en demeure de s'expliquer ou de se rétracter, n'a fait que réitérer et accentuer sa première affirmation. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et celui-là, je le ressusciterai au dernier jour. Et si cela ne suffisait pas, notre Seigneur poursuit. « car ma chair est vraiment un aliment et mon sang est vraiment un breuvage. L'homme qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Les Juifs ne s'y sont pas trompés et ont très bien compris que notre Seigneur ne parlait pas dans un sens allégorique. D'où leur réaction. « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» D'où également des défections parmi les disciples. Toutefois, malgré le scandale que provoquaient ces paroles et l'incrédulité de plusieurs parmi les disciples, notre Seigneur n'a aucunement altéré ou atténué ses dires, tellement le don de ce sacrement lui importait. Desiderio desideravi. J'ai désiré d'un grand désir. Pourquoi cela? Parce que, comme nous venons de l'entendre, notre Seigneur se donne à nous pour que nous ayons la vie éternelle. Par la communion, nous recevons en effet la vie même du Christ, non pas dans le sens qu'elle nous procure une naissance à cette vie de la grâce, ça c'est le rôle du baptême, mais bien plutôt parce qu'elle nous procure une augmentation considérable de la grâce existante déjà dans nos âmes. Car tandis que les autres sacrements communiquent une action de la grâce, une certaine action de la grâce, l'Eucharistie, elle, apporte l'auteur même de la grâce, notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même en personne. Il ne peut se donner à nous ici-bas comme il se donne aux élus dans le ciel, dans la vision de gloire. Il faudrait pour cela que nous mourions d'abord. Cependant, comme il lui tarde de nous combler de son bonheur, de prendre possession de nos cœurs, il a inventé une méthode on ne peut plus admirable pour à la fois et nous laisser la vie dans ce temps de pérégrination et de combat, qui est le nôtre, et en même temps nous donner, à se donner à nous le plus possible. Desiderio desideravi. Notre Seigneur vient de plus en nous avec tous les dons de la grâce, toutes les vertus dont nous avons besoin. Parmi ces vertus, la principale, la plus essentielle que nous recevons en communion, est sans aucun doute la charité. Charité tant pour Dieu que pour le prochain d'ailleurs. Elle découle de l'Eucharistie plus directement et plus abondamment que de tout autre sacrement. Elle est même l'effet propre de ce sacrement. Elle a d'ailleurs été instituée sous l'inspiration du plus grand amour possible qui soit et nous donne Dieu même qui est charité, Deus caritas est. Et là où la charité s'intensifie, l'affection au péché, même au péché véniel, s'éteint progressivement. Plus on aime Dieu, plus on déteste le péché. C'est les deux faces d'une même pièce, pile et face. On grandit dans l'amour de Dieu, on grandit dans la détestation du péché. Et quand on grandit dans la détestation du péché, c'est parce qu'on aime Dieu davantage. Ainsi, notre Seigneur veut se donner à nous pour prendre possession de nos cœurs et aussi pour détruire le règne du péché. Ajoutons un dernier effet qui découle de l'Eucharistie comme de sa source propre, la chasteté. Rien n'est plus propre que ce sacrement pour purifier le corps et le cœur de la concupiscence. Nous recevons en effet, dans la communion, la chair virginale de notre Seigneur en nous. Cette chair immaculée ne peut qu'éteindre très assurément le feu de la concupiscence et nous donner un amour viril et puissant de la chasteté, de la pureté. Alors, soignons bien nos communions. C'est la condition sine qua non pour en recevoir les effets merveilleux. Soignons-les en les préparant par la prière, par la lecture de nos messes à l'avance. Ces beaux textes liturgiques nous aident à mieux assister à la messe. Soignons aussi nos actions de grâce. Après la communion, quel trésor précieux nous possédons. Il est important de donner du temps à notre Seigneur, de rester auprès de lui, lui tenir compagnie, nous laisser transformer par sa si bienfaisante présence. Notre Seigneur a eu un grand désir de se donner à nous aussi, de désirer combler ce désir, de recevoir l'éloge qui fut décerné jadis par Dieu au prophète Daniel, qui l'appela un homme de désir. Daniel, c'était l'homme de désir. Qu'il en soit aussi pour nous, quand nous communions, Desiderio, Desideravi, j'ai désiré d'un grand désir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.